D'abord, c'est une dynastie. Vous remontez jusque quand?
L'ancêtre qui a commencé est né aux alentours de 1630, 1650, entre dans cette période-là. Donc, et après, c'est resté dans ma famille. Donc, moi, je suis la 10e génération à faire ça. Voilà. Alors, mon ancêtre, sa mère est originaire de Carcassonne. Et lui est né à Sainte-Suzanne, c'est-à-dire ce qui est devenu maintenant un quartier de la ville d'Orthez. Voilà. Et après, ce sont ses arrière-petits-enfants qui sont venus s'installer sur Naye, parce qu'en fait, on a suivi les filons d'argile. Voilà. Puisque, comme la plaine de Naye était une plaine très argileuse, c'est pour ça qu'ils sont venus s'installer ici, parce qu'ils avaient la matière première à disposition.
Et ça, c'était vers quelle année?
Alors ça, ils sont venus s'installer sur Naye en 1795, au moment de la Révolution.
Ils sont mis directement à Naï, où vous étiez encore il y a quelques années.
Non, d'abord, ils se sont installés, ils avaient l'atelier en bord de gave, parce qu'ils utilisaient la force de l'eau pour faire tourner les roues, ils utilisaient un moulin. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une grande crue à une période qui a détruit l'atelier. Donc ensuite, ils se sont installés effectivement rue des Pyrénées, là où on était à l'époque. Et depuis 2008, on est passé sur Bourdette.
Et dès que vous étiez installé à Naï, vous étiez au four à mazout.
Ah non, ça c'est mon grand-père qui a instauré le four à mazout. À l'époque de mes ancêtres, là ils utilisaient au charbon et au feu de bois, au bois tout simplement. Donc le four était composé avec deux foyers. Le premier foyer où en fait ils mettaient le bois pour faire chauffer. Et ensuite ils avaient l'autre foyer où là par contre ils mettaient les pains. Il y avait deux fours en fait, l'un à côté de l'autre. Voilà. Après, non, c'est mon grand-père qui lui est passé au mazout. Donc là il n'y a eu plus qu'un seul four.
Et que vous avez utilisé jusqu'à il y a 5 ans.
Oui, voilà, oui, il était utilisé toujours. Bon, il a été refait évidemment au fil des ans. C'était pas exactement le même. Je crois qu'à l'époque de mon arrière-grand-père, pour sortir des moules d'argile, parce qu'ils avaient fait des pièces pour l'exposition universelle de Moscou de 1902. Donc c'était des pièces hors gabarit qui étaient très grandes. L'histoire ne nous dit pas si elles sont allées à Moscou ou pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'ils avaient oublié un petit détail, c'est qu'avec la chaleur, l'argile, ça gonfle, ça s'expanse. Donc pour rentrer les pains dans le four, il n'y a pas eu de problème. Ils sont passés sans problème. Ils ont passé la porte sans problème. Ce qu'il y a, lorsqu'il a fallu les sortir, l'argile avait tellement gonflé qu'elle ne passait plus la porte. Donc ils ont été obligés de casser la porte pour pouvoir récupérer les deux pains. Voilà. Donc là, effectivement, après, il y a eu, je pense, un travail de rénovation. Et après, mon père, lui aussi, l'avait fait arranger il y a une cinquantaine d'années à peu près.
Et au niveau des argiles, vous n'avez pas eu de problème pour toujours en trouver jusqu'à aujourd'hui?
Oui et non, parce que jusqu'en 95 à peu près, 96, nous utilisions de l'argile du pays, donc comme mes ancêtres. Donc en fait, on allait la récupérer l'été. C'était des éleveurs qui nous autorisaient à creuser en abord de leur champ. Donc on avait trouvé des filons argileux qui nous intéressaient. Donc on creusait, c'est nous qui récupérions l'argile. Ça mobilisait minimum 2 personnes pendant 3 semaines. Donc pendant ce temps-là, la production ne se faisait pas. Ce qu'on pouvait faire à l'époque n'était plus réalisable à l'heure actuelle. Vu les coûts, on ne peut pas s'amuser à payer quelqu'un pendant 2, 3 semaines, un mois, et qu'il n'y ait pas de production derrière. Parce qu'il n'y aura pas de rentrée, mais par contre, à la fin du mois, il faut payer son salaire. Donc bon. Voilà. Et puis bon, il y a eu un autre problème, c'est que les éleveurs qui nous autorisaient à creuser dans leurs champs nous ont dit, bon, mais maintenant on arrête, parce que ça abîme le terrain. Donc ils nous ont un peu interdit l'accès, donc il a fallu qu'on se retourne. Et donc là, on a passé quelques années à essayer de trouver justement des argiles qui pouvaient supporter les chaleurs que l'on utilise, puisqu'on a un four quand même qui peut chauffer maximum jusqu'à. Alors, au niveau de la sole, en fin de journée, on peut atteindre les 1400 degrés. Donc il faut que l'argile puisse tenir ces températures. Donc on a fait plusieurs essais pendant plusieurs années de mélange d'argile, qu'on mélangeait toujours avec de la paille. Mais alors au début on en utilisait 3. On utilisait une argile noire qui vient de Loire-Atlantique, qu'on utilise toujours à l'heure actuelle. Après on utilisait une argile jaune. Alors là par contre pour l'argile jaune on en a utilisé de plusieurs sortes et de plusieurs fournisseurs. Et à l'époque quand on a commencé on était obligé de rajouter du grès pour que le mélange soit homogène. Et maintenant, on a réussi à en trouver une où on n'a pas besoin de rajouter de grès, donc on n'utilise plus que deux. Voilà, une qui vient de Loire-Atlantique, ça c'est toujours la noire, ça c'est toujours la même, et une autre qui vient de la région de Revel. Donc on utilise ces deux mélanges pour pouvoir avoir une argile qui tient au four.
Et vous ajoutez toujours de la paille?
Ah, toujours, mais de toute façon, la paille, c'est d'une part, c'est le liant de l'argile, c'est ce qui va permettre au pain de tenir. De rester solidaire lors du passage au four, sans qu'il ne pas qu'il se fende. Et c'est ce qui va permettre de transmettre la chaleur à l'intérieur du moule d'argile. Parce qu'il faut savoir quand même que l'argile, c'est un réfractaire naturel. Donc si on ne mettait que de l'argile, ben, à l'intérieur du moule d'argile, il n'y aurait pas de chaleur. Donc, les brindilles de paille, en se consumant, vont permettre à la chaleur de pouvoir passer à l'intérieur, mais tout en gardant l'intégrité du moule d'argile. Voilà, ce n'est pas des gros morceaux de paille qu'on utilise, c'est des petits morceaux. C'est pour ça que le moule reste intègre.
Et les cloches, vous les enveloppez dans du journal?
Alors oui, d'abord, quand les pièces ont leur forme définitive, quand elles sont façonnées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envelopper chaque pièce dans une feuille de papier pour les isoler de l'argile. Parce qu'il ne faut pas que l'argile s'accroche sur la pièce, parce que ça va empêcher que le laiton ne se mette sur la pièce. Ça va empêcher le brasage. Donc on est obligé de mettre cette feuille de papier pour pouvoir protéger. Parce qu'elle va avoir deux effets. La première, c'est que lorsque le pain d'argile va sécher, comme la pièce est en tôle d'acier, elle va rouiller. Puisque l'argile va être mouillée quand on va faire le moule d'argile. Donc, comme la pièce va rouiller, il faudrait la décaper. Et le fait de mettre cette feuille de papier, lors du passage au four, comme c'est fait en vase clos, il va y avoir une opération chimique qui va se faire, c'est que ça va dégager du carbone. Ça va permettre de décaper les pièces, enlever la rouille. Ce qui va permettre après au laiton de pouvoir se répandre de manière uniforme. Il y a deux aspects. Et ça, ce n'est pas nous qui avons inventé cette technique, puisque cette technique a été datée environ de 2500 ans, c'est-à-dire qu'elle a été inventée à l'âge du bronze. Et nous, nous utilisons toujours la même technique.
À l'époque où il n'y avait pas de papier.
Ah, mais mes ancêtres utilisaient, alors ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient chez les notaires, et ils leur demandaient les vieux actes notariés qui n'avaient plus valeur, ils récupéraient ces papiers pour pouvoir envelopper les pièces. Donc vous voyez, ce n'est pas nous qui avons inventé ce système-là, c'est que ça remonte vraiment assez loin.
Et tout ça, ça s'est trouvé de façon empirique.
Oui, je pense que cette technique-là de brasage a été trouvée, ben je vous dis, ça a été trouvé il y a 2500 ans.
Alors. De toute façon, il fallait isoler les cloches.
Alors ça s'est peut-être trouvé au fil du temps, mais alors on ne sait pas quand exactement. Il vaut mieux les isoler. Sinon, on se rend compte que si on ne met pas cette feuille de papier, ce qui va se passer, c'est que le laiton, lui, ne va pas se répartir de manière uniforme. Donc on risque d'avoir sur la pièce des zones où la tôle ne va pas être brasée. Elle aura toujours la couleur métallique. Ça, on le retrouve aussi si le four ne chauffe pas suffisamment. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette technique, quoi.
Alors il y a plein d'opérations pour faire des cloches. Vous êtes le dernier héritier d'une grande dynastie. Alors ça se passe comment un apprentissage lorsqu'on est fils d'un héritier comme votre père ?
Ça se passe comme pour un employé normal, c'est-à-dire qu'on commence à la base, quoi. De toute façon, pour pouvoir maîtriser ce métier, je dirais que pour en comprendre toutes les subtilités et avoir la technique parfaite, c'est un apprentissage de toute une vie. Au début, on va commencer à avoir certaines techniques de base pour pouvoir façonner, former les pièces. Ce qu'il y a, c'est que plus vous allez en faire, plus vous allez trouver des astuces pour gagner du temps. Je veux dire, c'est chacun qui va avoir sa méthode de travail, avec des bases identiques, mais chacun va trouver sa façon de travailler. Les pièces que moi je vais fabriquer ou que mes employés vont fabriquer, il y aura des différences parce que justement, on ne va pas faire exactement la même chose. On ne va pas les sortir de la même manière, on va pas. Le résultat sera le même, mais on va peut-être faire des étapes, on va peut-être faire une étape avant une autre. C'est vraiment chacun qui s'adapte en fait en fonction du travail. Voilà, tout simplement. De toute façon, il n'y a pas de formation particulière. C'est vraiment sur le tas qu'on apprend. De toute façon, pour maîtriser, on va dire, toutes les étapes de fabrication, pour être vraiment autonome, il faut compter au moins 5 ans. Parce qu'il y a tellement d'étapes à avoir et tellement de modèles à fabriquer, il faut vraiment ce laps de temps pour connaître tout et commencer à maîtriser. Comme c'est un métier qui est en perpétuelle évolution, la maîtrise, on s'en rapproche, mais on ne l'a jamais à 100%, quoi. Et puis après, c'est pareil, quand vous allez commencer la fabrication d'une pièce, là vous allez être beaucoup plus soigné, on va vraiment plus s'appliquer que si vous en avez une centaine à préparer, c'est sûr que la centième, il y aura peut-être des défauts qui ne seront pas sur la première. Mais ça c'est humain, ça on ne peut pas l'empêcher.
Et qu'est-ce que vous fabriquez alors comme cloche ?
Alors nous fabriquons que des cloches pour troupeaux, c'est-à-dire tous les troupeaux, que ce soit les vaches, les brebis, les chevaux, les chèvres, les chiens de chasse et certaines pièces pour les hommes, notamment pour les danseurs basques qui utilisent des grosses pièces pour leur spectacle. Mais bon, essentiellement, c'est vraiment pour les animaux, que ce soit les troupeaux ou les chiens de chasse.
Donc vous les appelez comment ?
Vous avez plusieurs appellations. Alors, pour vaches, il y a, on va dire, trois modèles différents. Il y a ce qu'on appelle, alors, dans notre jargon, la série à forte. Ça, c'est un modèle qui était utilisé essentiellement dans le bordelais. Nous, on l'appelle aussi le bordelais, tout simplement. Ça, c'est un modèle qui est plutôt utilisé pour les bêtes qui vont se retrouver en zone boisée. Comme c'est un son aigu, il faut savoir que les sons aigus se réverbèrent très bien sur la végétation. Donc, ça permet de les entendre mieux. Après, on va avoir deux autres modèles qui vont être beaucoup plus graves. On va avoir un modèle qui va être de forme rectangulaire avec une bouche rectangulaire, qui va avoir un motif de croix. Ça, c'est la métal. Ça, c'est le modèle de base pour les vaches. Là, il y a vraiment toutes les tailles pour les génisses et pour les vaches adultes, que ce soit en plaine ou en montagne. Et après, on va avoir un autre modèle qui va être pointillé, que nous, on appelle Gran Seria pointillé, ou le nom espagnol, les cuartices, ou en français, les cuartices. On va plutôt rentrer sur des tailles de pièces qui vont être pour la route. C'est les trois grandes familles qu'il peut y avoir pour les vaches. Après, pour les brebis, là, il y en a beaucoup plus. Il y a au moins cinq ou six familles différentes. Là, c'est vraiment par rapport aux différents départements de France. Ça va être les formes, en forme de poire renversée. Alors, chez nous, on appelle ça pour les petits modèles la truquette ou le trucou. Mais dans d'autres régions, vous pouvez appeler ça le redon. Au Pays Basque, ils appellent ça le cuchecoï. Ou le boum boum. Après, on a des modèles qui viennent du Pays basque sous le thym. Donc, nous, on les appelait les modèles basques. On a des modèles espagnols, petite série, qui peuvent être aussi apparentés au platel. Il y a le modèle picon clavela, qui est de forme allongée. Pour brebis, il y a beaucoup plus de variétés de sonnailles, de formes, que pour les vaches. Les vaches, elles sont surtout de forme rectangulaire. Alors, la seule chose qui va différer, c'est la bouche qui va être soit ovale, soit rectangulaire. Alors que, bon, pour les brebis, là, vous en avez en forme allongée, vous en avez des pointillés, des noix pointillés en forme de poire renversée. Il y a vraiment beaucoup plus de formes et de choix.
Quelle différence il y a entre la bordelaise et la métal?
Alors, c'est une question d'une part de sonorité et d'autre part de solidité. De sonorité, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les bordelais sont plutôt aigus, alors que les métals sont plus graves. Si on prend deux pièces de même taille, le bordelais sera beaucoup plus aigu que la métal. Ensuite, ça s'explique simplement parce que les épaisseurs de tôle ne vont pas être les mêmes. Les bordelais vont être beaucoup plus épais que les métals, donc plus résistants. Mais c'est ce qui va permettre justement d'avoir des sons aigus et des sons graves. Plus la tôle sera fine, plus ce sera grave. Plus ce sera épais, plus ce sera aigu.
Mais lorsqu'on les voit, comment on sait si c'est une bordelaise ou une métal?
Alors, la métal, comme je vous dis, a comme dessin la croix. Donc, déjà, c'est le motif qui permet de différencier les modèles, alors que la bordelaise, lui, n'aura pas de motif particulier. Il sera lisse. Et comme j'expliquais tout à l'heure, la bouche sera différente. C'est-à-dire que le bordelais, lui, aura une bouche ovale, alors que la métal, lui, aura une bouche rectangulaire. Donc, déjà, visuellement, par rapport à la forme, elles seront, si vous voulez, d'aspect, quand on les pose l'une à côté de l'autre, elles auront un aspect rectangulaire, mais différent au niveau de la bouche. Voilà, tout simplement.
Et après, derrière ça, il y a tout l'art du feu, tout l'art du four.
Voilà.
Alors, comment ça se passe lorsque vous mettez à cuire les cloches?
Ah ben, les pièces vont rester environ 2 heures, 1 heure sous la flamme, 1 heure.
Avant, vous les avez mis dans un pain d'argile.
Oui, d'abord on les prépare, oui, on enveloppe chaque pièce dans un moule d'argile justement pour pouvoir les passer. Parce que si la flamme lèche la pièce, là par contre, ce qui va se passer, c'est que la tôle va se découper comme si on passait un chalumeau. C'est vraiment découpé suivant les pointillés. Alors parfois, il peut arriver que, heureusement c'est très rare, que des pains s'ouvrent dans le four. Donc nous, dès qu'on voit ça, il faut les sortir pour les réparer, à condition que l'ouverture ne soit pas trop importante. C'est sûr que si l'ouverture est très importante, là, il vaut mieux prendre la décision de sortir le pain et la repasser un autre jour pour éviter justement de perdre la pièce. Voilà. Et après la journée de four, les moules d'argile vont rester 2 heures au four. Mais ce cas, ils ne vont pas rester 2 heures statiques dans le four. C'est-à-dire que nous, il va falloir qu'on les manipule pour que le laiton se répartisse de manière uniforme. Donc il va falloir les retourner, leur faire faire 180 degrés pour justement faire que le laiton se répartisse de manière uniforme.
Et vous les changez de place aussi.
Oui, on les change de place parce qu'ils vont rester 1 heure quand on les charge, ce qu'on appelle sur la partie gauche du four en zone de préchauffe. Ils vont pas être directement sous la flamme, donc ils vont monter, on va dire, entre guillemets, plus lentement en température. Et après, ils vont rester 1 heure sous la flamme. Donc c'est sûr qu'il va falloir les transvaser de la zone de préchauffe à la zone de chauffe.
Et lorsque vous faites une cuisson, ça dure la journée.
Ah oui, là, la cuisson, ça dure vraiment la journée, puisque là, on va passer à grosso modo entre minimum 32 pains, maximum, on peut aller jusqu'à 45 pains. Le maximum qu'on ait fait, je crois que c'est 49 pains en une journée.
Vous en faites combien à la fois?
Alors, maximum, il peut y en avoir 10 en même temps à l'intérieur du four. Et le minimum, 8. Donc, on oscille entre 8, 9 et 10, tout dépend de ce qui a passé lors des brasages et comment on a organisé les journées.
Donc, vous sortez les pains et vous rentrez les suivants.
Exactement. Alors, quand on commence la journée, on va mettre 4 directement sous la flamme, et là ils vont y rester 1 heure, il n'y aura que 4 pains. Au bout d'une heure, on va rouvrir la porte. Ceux qui sont sous la flamme, on leur fait faire 180 degrés pour que le laiton puisse se répartir de manière uniforme. Ensuite, on va en recharger 4 ou 5 sur la partie gauche. On va laisser refermer encore pendant une heure, ce qui fait que les premiers vont rester 2 heures au four. Au bout de ces 2 heures, on va ouvrir la porte et on va sortir les 4 premiers pour pouvoir ensuite les mettre sur une grille pour récupérer le surplus de laiton. Après, une fois que l'on a fait ça, on transvase effectivement ceux qui sont à gauche à droite, c'est-à-dire qu'on les place sous la flamme. Et après, on va en recharger 4 ou 5 sur la partie gauche. Et on va faire un roulement comme ça toute la journée.
Et chaque fois que vous ouvrez la porte, ça fait baisser la température ?
On perd grosso modo 100 degrés. À chaque fois qu'on ouvre la porte, le temps de travailler dessus.
Vous êtes obligé de faire remonter alors ?
Après, bon, l'avantage, c'est que ça remonte très vite. Déjà, quand on ouvre la porte, on baisse la flamme. C'est-à-dire qu'on va couper l'arrivée de la flamme pour pouvoir travailler plus facilement et avoir moins de chaleur qui nous arrive dessus. Et on ferme le registre du four, ce qui fait que ça va permettre de garder une certaine température à l'intérieur du four pour éviter que la température ne baisse trop vite. Et après, dès qu'on va refermer la porte, on rouvre le registre de la cheminée et on remet la flamme, ce qui fait que là, la température va remonter assez rapidement. Et grosso modo, entre chaque fermeture, je veux dire, entre chaque sortie, on augmente les températures. Donc ce qui fait qu'on va commencer à sortir les premières, on va être aux alentours de 900-1000 degrés au niveau de la voûte. Donc au niveau des pins, on sera plutôt aux alentours de 1000-1050 degrés. Et je vous dis, après, en fin de journée, on peut atteindre les 1200 degrés à la voûte. Donc on est à 1350-1400 degrés au niveau des pins.
Et vous les mettez sur un...
Un lit de charbon. C'est pour permettre à la chaleur de pouvoir passer sous les moules d'argile.
Mais il brûle aussi le charbon alors ?
Ah oui, ben le problème, voilà, c'est qu'avec ces chaleurs, le charbon se consume. Et l'inconvénient, c'est qu'à l'heure actuelle, la qualité du charbon n'est plus celle d'antan. Donc c'est vrai qu'il se transforme rapidement en poussière. Il tient moins aux fortes températures qu'à l'époque.
Et lorsque vous sortez les pins d'argile, alors, vous faites quoi ?
Ben, moi, j'amène le pin devant la porte. Et moi, c'est un de mes employés qui le récupère sur une pelle. Et ensuite, il va l'amener sur une grille qui est juste à côté. Et mes autres collègues, eux, vont récupérer les pins. Parce que les moules d'argile ont un trou pour pouvoir permettre au gaz d'échappement de sortir, de séchage. Et par ce trou, le surplus de laiton va couler. Donc, on va mettre le trou sur la grille et on va secouer le pin pour le faire couler. Comme le laiton est encore en fusion, le surplus va sortir du moule d'argile. Et on va le récupérer après, ensuite, qui sera réutilisé pour braser d'autres pièces.
Et la cloche, elle sort impeccable ?
Ah non, quand on sort, récupère les pièces, il y a encore de la noirceur de l'argile, le fait de refroidir, comme la terre est quand même poreuse, elles peuvent s'oxyder un petit peu, elles se ternissent, donc pour la nettoyer, on va d'abord nettoyer la pièce, et une fois qu'elle sera nettoyée, il restera encore une étape, c'est la mise à son. C'est-à-dire qu'on va d'une part gommer toutes les déformations qu'il y a eu lors du passage au four, parce que vous imaginez bien qu'avec les températures, la tôle va se déformer. Ensuite, il va falloir donner la forme définitive à la bouche, c'est-à-dire ovale, ou rectangulaire en fonction des modèles. Et ensuite, on va affiner le son. Ces étapes-là, ce n'est que la technique qui prime. Après, une fois qu'on a fait ça, on va tester le son, voir où est-ce qu'on se situe, voir si la pièce a le son qu'elle doit avoir ou s'il y a encore des modifications à apporter. Et là, après, on va jouer sur les volumes de la pièce, alors que ce soit sur les côtés, sur la planche, on va gonfler ou refermer un peu en fonction du son qu'on veut avoir. Et on va terminer en jouant sur l'épaisseur du bord de la pièce, pour les pièces qui ont des bords, ou pour la forme de la bouche, pour les pièces qui n'ont pas de bord. C'est ce qui va nous permettre de donner le son définitif aux pièces.
C'est quoi un bon son pour une sonnaille ?
Chaque éleveur est différent. Donc, chaque éleveur va rechercher un son particulier, qui soit grave, qui soit aigu, qui soit médium. Chacun va être unique. Donc, ils vont chercher un son unique. Ils vont surtout chercher un son qui va s'adapter le mieux avec les pièces qu'ils possèdent déjà. Il faut qu'ils gardent une certaine harmonie dans le troupeau. Alors, si ce sont des pièces non marquées, nous, quand on va mettre à son les pièces, on va se débrouiller pour avoir justement plusieurs tonalités. Tonalité principale identique, c'est-à-dire que le son principal de la pièce, la note principale, sera la même, mais après on va jouer sur les graves et sur les aigus, pour justement faire des différences. Et les éleveurs, eux, vont essayer d'adapter, en fonction des sonnailles qu'ils possèdent déjà, de trouver des sons qui leur plaisent et qui vont s'adapter le mieux aux sons qu'ils possèdent déjà. Après, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est notamment pour les pièces personnalisées, décorées. Il y a certains éleveurs qui arrivent avec des pièces qu'ils possèdent déjà et ils vont nous demander d'accorder les nouvelles pièces avec les anciennes pour que justement garder cette harmonie.
Et vous, lorsque vous les tapez, vous essayez d'enlever les harmoniques ?
Non.
Des résonances ou des sifflements ?
Ah, ça, oui. Là, il ne faut pas... Après, je vous dirais qu'il y a certains qui les recherchent. Mais dans l'absolu... Une pièce qui va avoir une vibration particulière, qui va avoir comme une guêpe, comme un bourdonnement, ça sera moins joli. parce qu'il y aura ce son en plus qui n'est pas prévu. Donc ça, par contre, effectivement, il faut l'enlever. Ça, je dirais, c'est plus par rapport à la technique, on sait comment il faut le faire, quoi. Quand on met un son, au départ, il faut d'abord maîtriser la technique. Et ce n'est qu'ensuite qu'on va se rendre compte des nuances qu'il peut y avoir dans le son. La première fois que vous allez mettre à son une pièce, les nuances, vous ne les avez pas. Mais si déjà vous avez la technique, vous vous rapprochez énormément du son. Et ce n'est qu'après, au fil des ans, que vous affinez la technique pour mettre à son et que là, vous arrivez à avoir les nuances. De toute façon, c'est comme partout. C'est avec l'apprentissage, plus on va en faire et plus on va arriver à avoir les nuances.
La cloche, la sonaille, au fil des années, c'est devenu un objet de cadeau aussi. Il y a souvent des gens qui les font marquer pour les offrir.
Oui, beaucoup, ça. De plus en plus, oui. Disons que depuis qu'on on a déménagé, on a aussi instauré tout un système de personnalisation. Parce qu'à l'époque, du temps de mon père, toutes les personnalisations qui pouvaient être faites étaient faites à la main. C'est-à-dire que ce soit les noms, que ce soit les dessins, il fallait d'abord les faire sur papier. Ensuite, les faire en effet miroir, avec un miroir, les recopier à l'envers. Ensuite, les marquer sur la pièce pour que ça puisse ressortir en relief, mais à l'endroit. L'avantage de l'ordinateur, c'est que ça, on peut le faire sur un écran. Donc, ce qui nous a permis d'étoffer notre gamme de personnalisation. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, c'était vraiment de la personnalisation que pour des pièces de route pour les éleveurs. Maintenant, grâce à ces procédés, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Dans la limite du raisonnable, évidemment. Il ne faut pas que les dessins soient trop complexe non plus, parce que sinon vous aurez un amas de points et on ne pourra pas distinguer si c'est un dessin ou si c'est une boule de points, quoi. Généralement, quand il y a des dessins particuliers, je demande d'abord aux personnes de m'envoyer une épreuve papier de ce qu'ils veulent, et c'est en fonction de cette épreuve papier que moi je vais leur dire si c'est réalisable ou pas. Après, ce qu'on peut faire, il y a une entreprise pas loin qui fait aussi de la gravure sur métal, donc s'il y a vraiment des choses très complexes à faire et que la personne veut que ce soit gravé, on peut le faire sous-traiter. Mais bon, dans l'absolu, c'est nous qui faisons les marquages. Il n'y a que pour une seule manifestation, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à écrire. Si on devait le faire, ça serait trop onéreux, donc on le fait sous-traiter. Mais ça, c'est pour des pièces de cadeau que nous demande la région bordelaise pour le Salon de l'agriculture de Bordeaux. Donc ça, effectivement, on le fait sous-traiter. Sinon, après, généralement, toutes les autres personnalisations sont faites en interne.
Et la vente, ça a énormément évolué en plusieurs siècles. Au début, vos ancêtres devaient vendre sur les foires. Comment ça se passait ?
Je pense surtout qu'à l'époque, au fil du temps, ils se sont spécialisés dans la vente de sonailles. Mais à la base, je pense qu'ils avaient une formation de forgeron. Puisqu'il faut savoir que du temps du premier ancêtre qui a commencé à faire des cloches, des sonailles, c'était les forgerons des villages qui fabriquaient les cloches pour le village. Donc en fait, ils ne les vendaient que dans leur village. C'est pour ça qu'à l'époque, et même jusqu'en 1800 ou 1850, il y avait beaucoup de fabricants. Parce qu'en fait, c'était vraiment les forgerons des villages qui fabriquaient les cloches pour chaque vallée. Ce qu'il y a, c'est que bon, au fil du temps, peut-être qu'il n'y a pas eu de reprise. Et puis bon, c'est un métier qui est quand même assez contraignant. Donc, il s'est réduit un petit peu. Mais ce qu'il y a dans ma famille, eux, c'est toujours resté. Et eux se sont étendus. Oui, ils devaient faire des foires pour pouvoir vendre les pièces. Ça, je pense aussi, oui.
Vous vendiez sur les foires ou vous vendiez aussi avec des revendeurs ?
À l'heure actuelle, oui. Oui, à l'heure actuelle, nous avons des revendeurs. Alors, en France, évidemment. Que ce soit pour le bétail ou pour les chiens de chasse. Mais nous en avons aussi. À l'étranger, nous en avons en Espagne, en Italie, en Grèce, pour le bétail ou pour la chasse. Après, ça dépend des pays. Après, c'est sûr que bon, le plus dur, c'est de trouver de nouveaux marchés. Parce que bon, malheureusement, nous sommes dans une niche, mais bon, nous ne sommes pas dans un secteur qui est en expansion. Puisque au contraire, les éleveurs, des exploitations fermes, justement, parce qu'à l'heure actuelle, le prix du bétail est plutôt en baisse. Après, il faut savoir que l'utilité de la sonaille, c'est surtout utile lorsque les bêtes vont en montagne. En plaine, ça a moins d'utilité. C'est sûr que nous, notre principale clientèle, notamment pour le bétail, c'est vraiment toutes les zones où il y a de la transhumance. Parce que le but premier quand même d'une sonaille, c'est de permettre aux éleveurs de pouvoir retrouver leurs bêtes en montagne, partant de brouillard, lorsqu'elles s'échappent. Même s'il n'y a pas de brouillard, ça leur permet de savoir si les troupeaux sont près de la cabane ou s'ils n'y sont pas. Ça leur permet de retrouver les bêtes plus facilement. Une vache qui ne va pas être équipée ou une brebis en montagne, vous allez pouvoir passer à 20 mètres de la bête, elle va pas vous dire « Coucou, je suis là ». Au contraire, elle va entendre du bruit, elle va se figer parce qu'elle va avoir peur, donc elle va pas bouger, et vous allez pouvoir passer à côté, elle va pas l'entendre. Tandis qu'avec même une petite, là, il va pouvoir la repérer et la récupérer.